Frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette église 40 jours après les fêtes de la Nativité. Notre Sainte Mère l'Église, dans sa liturgie, nous propose de méditer l'oracle que le Seigneur a accordé au prophète Malachie. Cet oracle déclare « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Cette première déclaration a de quoi étonner le juif pieux et orthodoxe. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est dans le temple de Jérusalem. Si le Seigneur n'est pas dans le temple, où est-il ? Il est dans l'Arche d'Alliance, renfermé dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple, mais également du mont Sion et de tout Israël. Pourtant, le Seigneur annoncé, soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est bien qu'il est donné de voir à Malachie, dans ce regard prophétique, la venue du Fils de Dieu dans l'ordre de la chair, dans son incarnation. Celui que vous cherchez viendra dans son temple. 40 jours après sa nativité, voilà la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph le Juste qui viennent consacrer cet enfant à Dieu. Selon la tradition d'Israël, il faut offrir les premières gerbes, de tout ce que l'on récolte. Il faut offrir le premier-né du troupeau. Mais le bon Dieu, depuis Abraham, avait interdit que l'on sacrifie l'enfant. Il fallait aller au temple pour le racheter. Voilà ce que viennent faire la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph. Ils viennent accomplir un geste obéissant à la loi, alors même que nous avons en Jésus-Christ la loi nouvelle. Si nous devions racheter, c'est parce que depuis Adam et Ève, nos premiers parents, nous sommes pécheurs. Et voilà que Marie et Joseph viennent offrir le sacrifice, soit de ces tourterelles, soit de ce couple de petites colombes. Les prêtres mineurs vont accueillir ainsi ces deux oiseaux. Que vont-ils faire ? Ils vont prendre le sang de ces oiseaux et selon la tradition juive, ils vont en asperger l'autel du Seigneur. C'était les signes anciens qui annoncent que le Christ, qui est le véritable autel, celui sur lequel va être offert le sacrifice, le Christ est également le prêtre qui va offrir ce sacrifice. Et voilà que ce sang qui vient purifier, c'est le sang du Christ qui vient chacun nous purifier. Une fois que le sang a été répandu sur l'autel, eh bien voilà qu'on va offrir ces deux petits oiseaux, leurs cadavres, en holocauste. Ils vont être brûlés et la fumée monte vers le Dieu trois fois saint. Ainsi fonctionnait la liturgie du Temple de Jérusalem qui annonce mystérieusement le sacrifice que le Christ vient accomplir sur le bois de la croix. Il ne s'agira plus de tourterelles et de colombes, il ne s'agira plus à la Pâque d'offrir un agneau, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur Jésus, celui que vous cherchez, viendra dans son temple. Et Malachie a poursuivi, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient. Oui, voilà que le Seigneur Jésus-Christ est le messager de l'Alliance nouvelle qui est contractée en son sang. 8 jours après sa nativité, le Seigneur Jésus a déjà versé le sang au jour de sa circoncision. Il est entré de plein pied dans le peuple de l'Alliance. Et voilà que 40 jours après, puisqu'il est le premier-né, il est consacré au Seigneur. En consacrant ainsi le premier fils, c'est tous ceux qui seront à venir qui sont porteurs de la bénédiction du Seigneur. La bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph n'auront pas d'enfant. La Vierge demeure vierge, justement. Eh bien, voilà que à travers cette bénédiction que le Seigneur a reçue, c'est chacun d'entre nous qui sommes ses fils et ses filles qui recevons la bénédiction de Dieu. Cette prophétie nous annonce donc l'alliance nouvelle que le Christ vient accomplir. Marie et Joseph, profondément pieux et soumis à la loi juive, viennent donc consacrer leur enfant, mais 40 jours après la naissance d'un enfant, il s'agit pour la mère juive de la prière des relevailles. Tout l'Ancien Testament et la loi ancienne se fait par rapport au sang. Le sang dans l'Ancienne Alliance, c'est le principe de vie. Prenons l'exemple du Jeudi Saint que nous allons revivre dans quelques instants. Pourquoi est-ce qu'on sépare le corps et le sang ? Parce que le corps sans le sang, dans la tradition juive, c'est un cadavre. Mais s'il y a le sang qui est au principe de vie, voilà que le Seigneur est bien vivant et qu'il peut faire vivre son Église. La bienheureuse Vierge Marie, en tant que femme enceinte, a pu perdre du sang. Et bien voilà que chaque mère, 40 jours après, venait pour les relevailles. Elle entrait à nouveau dans l'alliance avec Dieu. Tout cela nous paraît bien étrange et bien lointain, mais c'est ainsi que fonctionnait le peuple de l'Alliance, attendant que paraisse le Seigneur, le Messie venant annoncer la loi nouvelle. D'ailleurs, il n'est pas anodin que cette venue du Seigneur ait été reconnue et par un homme et par une femme, et par un vieil homme et par une vieille femme, figurant aux portes du temple comme le vieil Adam et la vieille Ève. Ils viennent voir de leurs yeux le salut que le Seigneur a promis immédiatement après la punition infligée à nos premiers parents. Mais dans la descendance de la femme, une d'entre elles écrasera la tête du serpent. C'est l'image de la bienheureuse Vierge Marie, toute pure, qui s'avance ce jour-là pour manifester l'obéissance à la loi, alors qu'elle n'a pas versé le sang, mais elle a porté celui dont le sang vient nous sauver. Le vieillard Siméon reconnaît non seulement que le Seigneur est le salut qui lui est donné de voir, et comme dans la tradition biblique on nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, voilà que ce vieillard sent que son heure est venue. Ses yeux ont vu le salut. Mais contrairement aux grands prêtres qui auront le cœur fermé à la nouvelle de la venue de cet enfant, le vieillard Siméon reconnaît qu'il n'est pas seulement le consolateur d'Israël, mais qu'il est la lumière qui vient éclairer toutes les nations. Ce petit cierge que nous avons porté au commencement de cette messe manifeste deux réalités de notre vie chrétienne. La première, c'est que nous recevons cette lumière intérieure de Dieu au jour du baptême. Mais également, cette lumière, elle nous éclaire, mais nous sommes appelés à la transmettre aux autres comme vous l'avez fait en vous transmettant la lumière d'un cierge à l'autre. La seconde réalité, c'est la procession qui a suivi. La procession manifeste l'Église en marche qui va à la rencontre du Seigneur. Voilà comment résumer et en condenser toute notre vie chrétienne symbolisée par ces deux gestes. Oui, Siméon reconnaît qu'il est la lumière qui vient éclairer les nations, et nous prions en ce jour pour que le Seigneur puisse éclairer toutes les nations, tout homme en venant dans le monde, comme nous le dit Saint Jean dans son prologue, il est la lumière qui brille en tout homme, et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. De même en est-il de la vieille prophétesse Anne, qui dans son âge avancé, n'ayant vécu plus que pour Dieu après son veuvage, elle reconnaît que la consolation d'Israël arrive. Siméon, Anne, le vieil Adam, la vieille Ève sont comme là, aux portes du temple, pour manifester que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, vient à notre secours. Cette fête de la présentation est depuis quelques années la fête de la vie consacrée. Voilà que tous les religieux et religieuses, non pas avec monsieur le curé et moi qui sommes du clergé séculier, mais tous ceux qui vivent en communauté, qui sont consacrés, ont aujourd'hui leur fête. Nous pouvons penser, nous l'avons bien connu ici, à sœur Marie-Sylvie, qui est aujourd'hui honorée en cette fête, mais également à tous ceux, hommes et femmes, qui, ici, en cette église, comme à Larolle, comme à Madiran, avaient jadis donné leur vie pour Dieu, pour cette contemplation de Dieu. Nous pensons à tous les religieux et religieuses de notre diocèse. Une grande majorité est concentrée auprès de Lourdes. Nous prions également pour tous ceux qui, à Tournai, s'efforcent de vivre de la vie de Saint Benoît. Oui, puisse le Seigneur nous présenter en ce jour à la face de Dieu, comme Marie et Joseph l'ont présenté. Ainsi soit-il.